La vie en bleu, 9h-11h.
Là, j'ai déjà cité quelques symptômes de la dépendance affective au travail, Geneviève Krebs.
Oui, on va peut-être faire un rappel.
Ouais. Qu'est-ce que la dépendance affective au boulot? Comment identifier ça?
Qu'est-ce que la dépendance affective tout court? Et comment ça agit et quelles conséquences ça peut avoir au travail? Donc, on va prendre les préambules. On va dire qu'à la base, tout le monde a besoin de reconnaissance, de considération, d'être apprécié. J'ai un peu... Encore une fois, un chat dans la gorge.
Ah bah on est tous malades. Hein. Je vous le rappelle, l'un des nombreux services de la vie en bleu ce matin, c'est de vous transmettre nos microbes.
Oui, surtout quand on est à côté de Marc.
Comme ça, vous pourrez déposer un petit congé maladie, comme ça. Non, vous voyez vos collègues qui sont avec les enfants, vous, on vous a refusé vos RTT. Paf, collez-leur un arrêt maladie, on est là pour vous transmettre nos miasmes.
Donc je disais, le besoin de reconnaissance, la considération, besoin d'être apprécié par les autres, etc. Ça, c'est un besoin de base qui est valable pour tout le monde. Mais là où ça commence à poser un problème, c'est quand la recherche de ces éléments-là deviennent le centre d'intérêt de tous les jours, dicte les comportements, les décisions, la façon d'être avec les autres. Alors ça vient d'où ? Ça vient de l'enfance, la petite enfance jusqu'à la préadolescence. Et en général, quand on observe les besoins de l'enfant, l'enfant a besoin de quoi ? L'enfant, il a besoin évidemment d'être aimé, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin qu'on prenne soin de lui... et qui est un accompagnement à l'autonomie, aux apprentissages, à la réussite, et aussi, lorsque des échecs se présentent, de pouvoir l'accompagner à se relever, à avoir droit de vivre l'échec, et surtout d'être encouragé pour qu'il poursuive. Lorsque l'enfant a tout ça, et qu'il vit tout ça, il a naturellement confiance en lui, il a une bonne estime de lui-même, il prend conscience au fil des années en grandissant qu'il a de la valeur, et lorsqu'il a des projets, il arrive à aller chercher en lui tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a en magasin pour pouvoir générer par lui-même tout ce qu'il faut, toutes les ressources pour bien avancer. Quand l'enfant n'a pas ça, soit qu'il s'est imaginé ne pas l'avoir, soit qu'il n'ait pas du tout eu cet accompagnement-là, il a peur d'agir. Il est constamment dans le blocage, il a besoin de l'approbation des autres, il a besoin soit de procrastiner, soit il a besoin de perfectionner, il a jamais terminé, et il s'imagine que pour lui, de toute manière, lui n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, et donc il se compare beaucoup, et forcément la solution vient des autres. La solution à son bien-être et la solution à la réussite.
Procrastiner, c'est tout remettre au lendemain.
Oui, c'est ça. C'est toujours trouver une bonne excuse, quelque part, pour remettre à plus tard.
C'est quoi ? C'est la peur de mal faire ? C'est juste
bien
ça.
Bien sûr.
C'est-à-dire, je vais forcément me planter et je vais faire n'importe quoi.
Il y a forcément, il y a des pensées internes et il y a des peurs qui soutiennent ce fonctionnement-là. Et puis, il y a une troisième situation qui est la surprotection. On oublie souvent d'en parler, celle-ci. C'est l'enfant qui a été surprotégé quand il était petit et tout en grandissant. Mais, le parent qui surprotège, c'est comme si, je dis bien c'est comme si, c'est pas forcément l'intention du parent, mais c'est comme si, indirectement, il donnait le message à son enfant, je fais et je suis là pour toi, je t'accompagne et je fais presque à ta place, parce que, indirectement, c'est comme si j'avais pas suffisamment confiance en tes capacités. Du moins, c'est ce que comprend ou pourrait comprendre l'enfant. Et donc, quand on retranspose ça dans la vie adulte, c'est je suis pas sûre d'eux, donc j'ai besoin d'aller chercher l'approbation toutes les deux secondes. Et vous avez vu ce que je fais, et là, est-ce que ça va si je fais ça, etc. Toujours dans l'hésitation et dans le doute. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on a posé, on va dire, l'origine, les chemins possibles, et maintenant, qui en entreprise ressemble à ces dépendants affectifs.
Et ça donne des travailleurs après qui sont tout le temps dans le bureau, toutes les 5 minutes, dès qu'on leur demande quelque chose, j'ai fait ça, je vais faire ça. Ils ne sont pas autonomes, en fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est un problème d'autonomie. Alors, quand j'ai écrit le livre, j'ai vraiment identifié, par rapport évidemment au terrain que je pratique depuis une vingtaine d'années, un peu plus, trois grands groupes, on va dire, par rapport à ces dépendants affectifs. Il y a celui qui fait tout pour être apprécié. Parce qu'il a besoin d'être apprécié, il a besoin de se sentir aimé. Donc ça donne quoi ? Ça donne quoi en réalité ? Ben, il est en suractivité, il se surinvestit, il devance les besoins sans que personne n'ait besoin de demander quoi que ce soit. Ben, il a déjà fait quelque chose qui va servir ou pas. Donc quand ça sert, c'est bien, mais quand ça sert à rien, on appelle ça de la surqualité, ça a un coût pour l'entreprise. Mmh. Et puis ça génère de la frustration pour celui qui le fait, puisque personne ne s'en sert, etc. Le deuxième type de dépendant affectif que j'ai identifié, c'est celui qui contrôle, qui manipule, qui doute de tout. Alors, quand je dis manipulation, attention, il y a vraiment un distinguo à faire entre la manipulation qui est utilisée par quelqu'un qui serait plutôt pervers, destructeur, du dépendant affectif. Le dépendant affectif, lorsqu'il manipule, c'est vraiment important de le dire. Je sais que je l'ai déjà dit à cette antenne.
C'est de la petite manipulation.
C'est de la manipulation qui sert à lui se préserver d'une angoisse. C'est un espèce de schéma de fuite. C'est comment je peux faire pour éviter d'avoir peur, pour éviter d'être en panique, et puis pour pouvoir peut-être avoir la reconnaissance, etc.
Alors que c'est moins grave.
La manipulation par quelqu'un qui serait pervers, elle est souvent préméditée et l'objectif et le seul objectif, c'est de détruire l'autre. Alors que là, on n'est pas dans cette optique-là. Et puis le troisième marque que j'ai identifiée.
Et après, on rentrera dans les détails.
Oui, le troisième, c'est je viens bosser. Je suis là, il y a pas d'absentéisme. Je viens bosser, je suis là, mais j'ai la tête ailleurs. Et souvent, la tête, c'est je suis ailleurs dans ma passion sentimentale. Donc je suis en train de m'imaginer l'autre resté à la maison ou l'autre qui est parti à son boulot. Mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il rencontre quelqu'un? Et si jamais le quelqu'un était mieux que moi, moi je risque de perdre l'amour de ma vie, etc. Et cette personne-là, on la voit souvent dans ses pensées ou papillonner d'un bureau à l'autre pour demander conseil, pour raconter sa vie perso, et enfin pas très productif et pas très efficace.
Bon en fait on est tous dépendants affectifs au travail, on rentre tous dans l'une de ces trois catégories.
Hein. À des degrés différents.
On va rentrer dans les détails dans un instant. Pour se soigner de la dépendance affective au travail. Parce que dit comme ça, si on cherche les compliments, qu'est-ce que ça peut bien faire ?
Exactement.
C'est pas dangereux. Le problème, c'est que le jour où vous allez tomber sur un chef ou un patron un peu manipulateur.
Ou un collègue, ça marche pas seulement dans ce sens-là.
Vous n'avez pas d'armure. Et alors là, vous êtes à nu. Donc on va essayer de gommer un petit peu tout ça. La dépendance affective avec Geneviève Krebs, qui vient d'écrire un livre à ce sujet, ça s'appelle en toute simplicité La dépendance affective au travail, aux éditions Erol, EYRO2LE. Par exemple, si vous rentrez dans le bureau du chef ou du directeur régional et que vous commencez à lui chanter cette chanson qui va venir, là vous êtes carrément dépendant affectif, à 200%.
France Bleu Lorraine.
Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My
Patrick Swayze, She's Like the Wind sur France Bleu en Moselle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal prononcé. Patrick Swayze, Swayze, pas tout. She's Like the Wind sur France Bleu en Moselle.
La vie en bleu, 03 87 52 13 13.
Quoi, on me fait des signes terribles, on rigole là derrière la vitre. Je ne sais pas prononcer l'anglais, j'y peux rien. L'allemand non plus, remarque.
Bah, faites juste de votre mieux, hein, tout
ira. Et le français, il y a encore du boulot. Hein. Geneviève Krebs, ah, ça va.
Oui, c'est très bien.
La dépendance affective au travail, on parle de ça ce matin jusqu'à 9h45, parce que vous êtes peut-être en vacances, peut-être en RTT. Donc, on prend le temps de voir votre comportement au boulot et d'identifier peut-être une dépendance affective. Mmh. Alors, on a vu qu'il y avait trois types, trois catégories de dépendants affectifs, Geneviève Krebs. Les surinvestis, ceux qui contrôlent et puis ceux qui ont la tête ailleurs.
Voilà, c'est
j'ai résumé les bien, catégories
bien
comme
résumé,
ça.
Bien résumé. Et il y a un fonctionnement qui est propre à ces dépendants affectifs et qui du coup déclenche et génère un fonctionnement chez leurs collègues ou supérieurs, etc. Tout le monde s'adapte, on va dire, à ce dépendant affectif. Alors, il fonctionne comment ? Il rentre très très souvent dans le fameux triangle infernal de Karpman, si ça vous dit quelque chose.
C'est quoi ça ?
Bah, c'est tout simplement une position. C'est un triangle. Il y a une position qui est la victime, le sauveur ou le sauveteur, et la troisième position, le persécuteur.
Alors on fait un triangle, hein, c'est ça ?
Voilà, on fait un triangle.
La victime, elle est où ?
Peu importe. Vous mettez à la pointe que vous voulez. Et en fait, c'est tout simplement pour dire, le dépendant affectif se balade là-dedans. Un coup, il arrive dans une situation, il sauve la situation ou quelqu'un. Il le fait parce qu'il a besoin, il attend quelque chose en retour. Et à force de faire, donner, et si jamais rien n'arrive, bah, il peut se positionner en victime, et si ça marche toujours pas, il finit par être persécuteur. Et il se balade comme ça, il y a plusieurs portes d'entrée, mais il se balade, on va dire, dans ce triangle-là, et c'est pas très sain.
C'est-à-dire persécuteur, persécuter les collègues ?
Je vais donner des exemples. D'ailleurs, vous les trouverez... pages 170 et 171, je les énumère. Alors, le
ça
persécuteur.
C'est un peu comme à l'école. Alors, prenez vos livres.
Mais
170,
c'est exactement ça.
171. Et François, tu lis. Comment ça, t'as pas ton livre?
Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'en profite, je rajoute encore une couche à la page 11. Lorsque vous allez en librairie, c'était pareil pour le livre bleu, mais là, cette fois-ci, c'était à page 9. La page 11, vous allez vous reconnaître parce que je mets exactement les critères à qui s'adresse ce livre. Si vous vous reconnaissez page 11 et 12, ça veut dire qu'il y a un petit peu de ça pour vous et que le livre va pouvoir vous aider.
Ah, on va donner quelques exemples.
Eh ben, on peut donner quelques exemples, mais j'aimerais mieux qu'on parle du rôle du persécuteur.
Ah oui, allez-y, persécuteur.
Ouais. Alors, le persécuteur, c'est celui qui a toujours besoin d'avoir raison. Il a besoin de prouver qu'il est le meilleur. Il critique pour dévaloriser les autres et pour se faire valoir. Il se compare souvent aux autres. Il aime la compétition. Il se met facilement en colère. Il veut constamment, il en veut constamment à quelqu'un. Et il adopte ce rôle pour libérer son agressivité, pour quelque part se décharger de toute la frustration qu'il a eue à donner, faire, sans qu'il y ait de retour. D'accord ? Donc évidemment qu'on se retrouve un peu là-dedans. Et évidemment aussi, si, du point de vue de l'entreprise, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Si par exemple je prends, il aime la compétition et il a besoin de prouver qu'il est le meilleur, on se dit, ben génial, c'est que quelque part il est boosté par lui-même et qu'il va y avoir de bons résultats. C'est plutôt pour les collègues que ça pose un problème. C'est l'ambiance qui va être touchée parce que à force de cette façon d'être, ça vient un petit peu bousculer tout le monde, ça crée des clans et oui, l'ambiance en prend un coup. Maintenant, si on prend le rôle de la victime, ça se traduit comment ? Ben, c'est une personne qui a l'impression que tout le monde lui en veut. C'est la personne, quand une remarque est dite, c'est forcément pour elle et elle le prend pas par rapport à une situation, mais pour elle. Voilà, elle pense que sa personne est atteinte, est mise en difficulté et montrée du doigt. C'est une personne qui pense qu'elle a absolument pas de chance. Elle est confrontée à une situation, mais pour elle, c'est sûr que ça va pas s'arranger. C'est toujours une tuile, c'est toujours, ça m'arrive toujours à moi, et c'est bien connu. Enfin, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui se sent pas à la hauteur pour agir seul, mais qui se sent pas à la hauteur tout simplement. Donc qui passe d'échec en échec et qui s'appuie sur l'échec pour dire ouais, mais de toute façon c'est normal, ça n'arrive qu'à moi. Voilà. Et puis le fameux sauveur, lui trouve des solutions à tout, même quand on lui demande pas. Il a juste envie de plaire, il veut faire plaisir à tout le monde, il veut trouver des solutions pour l'autre, il veut prouver, il a besoin de prouver et de se sentir utile. Le maître mot, c'est j'ai besoin d'être utile. Voilà. Et ensuite, on va me le dire que je suis utile, que je sers à quelque chose, et heureusement que j'étais là, quoi.
Et là, on passe par ces trois étapes à différents moments de l'année. Ça peut changer d'un jour à l'autre, quoi.
De l'année ou même plusieurs fois par jour. Ça dépend des personnes qui est en face. Ça dépend des situations.
C'est pour savoir à qui s'adresse ce livre, c'est-à-dire à tout le monde.
À tout le monde, mais surtout, ça s'adresse... on est tous un peu dépendants affectifs, parce que ça a un rapport aussi avec l'abandon, et comme on a tous vécu l'abandon, ne serait-ce qu'au moment de la naissance, là où ça pose un problème, c'est quand ça commence à faire souffrir, et quand ça devient une obsession dans la journée et quotidienne de « qu'est-ce que je peux faire ?» pour avoir.
Alors, on a fait ce constat. Certains derrière le transistor sont en train de se dire, mais oui, c'est pour ça que ça va pas très bien au travail. C'est pour ça que je me suis encore engueulé avec un tel ou un tel et qu'avec le patron, j'ai l'impression qu'il m'aime pas et que je suis mis de côté. Donc, on a fait le constat. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se soigner de ça? On va en parler dans un instant dans La Vie en Bleu, l'émission qui vous rend service avec Geneviève Krebs. Le livre s'appelle La dépendance affective au travail. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies de Metz. Absolument aucun problème, sinon sur Internet. Et moi, je suis très dépendant des publicités. J'adore ça. Dès que je vois une publicité, je ne peux pas m'en empêcher. J'en diffuse 5 à la suite. France Bleu.
Vous êtes plus de 100 000 à passer la frontière luxembourgeoise tous les jours. Et tous les jours, France Bleu Lorraine parle de vous.
Qu'est-ce que ça change donc pour les frontaliers ?
La Minute des Frontaliers, c'est l'actualité des frontaliers et la vie en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg.
La Belgique connaît une crise assez grave. On ne dira pas qu'on y est habitué, mais enfin, voilà.
Rendez-vous à 6h20 et 7h20 et sur l'appli France Bleu.
L'ex-compagnon de Jean-Jacques Goldman et de Carole Frédéric fait son chemin de guitariste solo. Michael Jones est au Seven Casino d'Amnéville ce vendredi 22 février à 20h30. Écoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos places.
Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret.
Un secret ? C'est juste que je suis bien dans ma peau, grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. Fine ni la peau sèche. Ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie.
Découvrez le nouveau soin Vital, confort et nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 31 mars, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr.
Bleu.
France Bleu Lorraine. La vie en bleu jusqu'à 11h.
Allez, au boulot. Et faut pas oublier que le travail, ça n'est qu'un moyen d'obtenir des sous à la fin du mois.
Oh bah j'espère que c'est plus que ça. Un petit peu de plaisir, c'est pas mal aussi.
Pour éviter la dépendance affective au travail, c'est le sujet de ce matin. Comment avoir de bons rapports avec ses collègues et avec sa direction? Oui. Est-ce qu'il faut se dire, bon, bah, c'est pas un... je viens pas me faire des amis ici. J'entends souvent cette phrase, je suis pas là pour me faire des copains.
Mmh, oui.
Est-ce qu'il faut se dire, bon, bah, c'est qu'un moyen d'obtenir de l'argent, le travail? C'est pas un moyen d'avoir des potes?
Heureusement que pas que ça, Marc. Évidemment, je veux dire, on a tous besoin d'argent pour pouvoir fonctionner normalement et paisiblement dans notre vie. Mais des personnes viennent au travail parce que il y a la relation au travail, il y a les collègues, il y a la bonne entente, je me sens boostée dans un projet. Il y a du plaisir, tout simplement. Alors, si on revient aux dépendants affectifs qui, somme toute, se comporte un petit peu comme un enfant, hein, puisque ouais, c'est son enfant intérieur, quelque part, qui prend toute la place et qui vient se mêler dans la vie de grand, ben, des comportements qu'il va adopter, de ses blocages, de je prends une décision, j'en prends pas, je sais trancher ou pas, j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc, il se comporte un peu comme un enfant. Quand en face, il a un manager qui est un petit peu paternaliste, donc enfant d'un côté, parents d'un autre. J'allais dire, somme toute, ça se passe assez bien. Quand justement, le manager en question arrive à s'adapter selon les personnes qui managent avec lui, je sais que franchement, je dois prendre cette casquette-là parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire lui-même pour atteindre un petit peu l'autonomie, mais l'autonomie affective. Après, je pourrais prendre une autre position. Mais les risques quand même pour l'entreprise, on va en citer quelques-uns, ils sont pas des moindres. Quand il y a un dépendant affectif, mais dans une entreprise, il y en a parfois plusieurs. Mmh. Donc ça peut donner quoi? Par exemple, lorsqu'une entreprise, bon, on a constamment des projets en entreprise plus ou moins importants, mais il y a des projets. Et en général, on choisit les personnes qui mènent le projet, bah, en fonction des compétences, des capacités, de la disponibilité, de la réactivité. Et si jamais le dépendant affectif sur un projet ne va pas être choisi, pour toutes ces raisons-là, pour des raisons qui sont propres, j'allais dire, au fonctionnement d'une entreprise, lui va s'obstiner. Il va s'obstiner dans le refus, il va se positionner en tant que victime, il va dire mais moi je me sens à l'écart, vous vous rendez pas compte. Donc ça, il y a des histoires en fait qui sont récurrentes et au niveau relationnel ça peut générer des crises et des conflits.
C'est surtout avec les collègues que ça pose problème, j'ai l'impression, parce que la direction est plutôt contente d'avoir des dépendants affectifs qui se surinvestissent, qui veulent faire plus que les autres. Par contre, les collègues, eux, ça passe pas trop si on fait plus qu'eux et qu'on fait remarquer le truc après.
J'ai vu des choses un peu, on va dire, délicates par moment en entreprise. J'ai vu, par exemple, alors je dis surtout ne le faites pas, mais j'ai vu à un moment donné un tel ras-le-bol qu'un dépendant affectif, c'est vraiment fait coincer dans un coin par ses collègues en disant là maintenant tu te calmes parce que t'as un rythme, tu te rends pas compte, tu élèves absolument tous les objectifs et tu nous mets nous en échec alors qu'on est juste sur un rythme, on va dire normal, déjà normal un peu plus, mais là tu génères un stress pour nous, ça va plus. Hier encore dans une entreprise, un collaborateur me disait non mais c'est pas possible, il travaille jusqu'à 2h du mat, il m'envoie un mail à 23h pour des choses, pour un revirement, on va dire, de situation que lui a décidé et pour des choses que j'ai normalement, que je dois normalement avoir terminé de faire le lendemain à 8h quand j'arrive. Mmh. Il me dit, mais en échec, il me met la pression, pas possible. Et en plus, j'ai décidé de plus regarder mes mails à partir de 22h. Et 22h, c'est déjà une heure plus que convenable.
Ah
c'est
ouais,
déjà
c'est
bien dépassé.
Dire, ouais.
Et il m'envoie des mails à 1h, à 2h, mais des mails de 3 km. Donc ça donne ce genre de choses et ça fait que ce genre de comportement peut vraiment poser un problème dans l'ambiance.
Donc si vous vous êtes identifié dépendant affectif, on lève le pied.
Ben, on lève le pied, c'est pas si facile. Je dirais, il le fait pas exprès, ce dépendant affectif. Il le fait parce que derrière, il y a un schéma de peur. D'accord? Et d'où la nécessité, quand vraiment vous avez identifié qu'il y a un petit peu de ça, de travailler sur vous. travailler sur vous. Et quand l'entreprise, alors pourquoi je me balade en entreprise? Bon, déjà parce que j'ai démarré par là et que j'aime le secteur de l'entreprise aussi. Il y a depuis 2008, renforcé en 2012, en 2016, etc. Il y a des lois qui sont prises sous le volet des risques psychosociaux. Justement pour éviter les burn-out, pour éviter le mal-être au travail, donc veiller à la santé psychologique et à la santé physique des travailleurs. Il y a des lois qui existent. Et les entreprises, lorsqu'elles identifient un mal-être profond ou quelqu'un qui se sent même persécuté, il n'y a pas que le dépendant affectif qui se sent persécuté. Lui, c'est dans son système. Mais les gens qui gravitent autour de lui, à un moment donné, il devient tellement intrusif, on va dire même dans la vie privée des autres, que les personnes se sentent mais vraiment harcelées et persécutées. Donc là, on fait appel à moi, sous le volet de la loi, parce que c'est une obligation de réagir quand on a identifié quelque chose.
Et ça provoque de la souffrance au travail. Hein.
Oui, ça peut.
La dépendance affective au travail, le livre de Geneviève Krebs, on en parle ce matin pour vivre une belle histoire d'amour au boulot. Ah, une histoire d'amitié avec les collègues. Parce que c'est surtout avec les collègues que ça se passe mal. Alors comment soigner tout ça? Comment gommer tout ça? Lever le pied? Bah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Faire 16 heures, on est payé 8 heures. Bon, bah on travaille 8 heures, point barre. Hein, on n'a pas besoin de ramener du travail à la maison. Est-ce que ça peut être une bonne chose? On va en parler dans un instant. Une fois que vous êtes identifié dépendant affectif, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? C'est quoi la piste de travail? Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire tout seul, sans l'aide de personne? C'est La Vie en Bleu, l'émission qui vous rend service au boulot ce matin.
Peut-on rouler sans le permis, prendre une autre voie, vivre une autre vie? Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le virage comme des hommes, pas des sauvages.
Zazie, l'essentiel, c'est le nouveau. Et l'essentiel, c'est de passer du temps avec les enfants et les petits-enfants. Il y a un loto pour les enfants. Hein. Frais ma mère le bac, tout à l'heure, 14h. C'est à la maison des associations. Ça va leur apprendre à compter aux enfants. C'est sympa, un petit loto. Moi, j'aime bien.
Et puis, c'est l'ambiance, c'est sympa.
Le travail, c'est un peu le grand loto de la vie aussi. On ne sait pas sur quel chiffre on va tomber. On ne sait pas si on va faire une ligne, un carton plein.
La bonne transition, Marc.
Deux lignes, celle du dessus, celle du haut. Hein. Ce matin, on parle de la dépendance affective au travail. Comment avoir de bonnes relations au boulot? Comment ne pas tomber dans le côté « j'attends trop ». J'attends tout le temps des compliments et oui. Je le vis mal si on fait un reproche et je rentre à la maison en faisant la tronche et en agressant le compagnon. Ça va jusque-là, des fois.
Hein. Bien sûr, ça peut aller jusque-là. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas de compagnon à la maison et ces gens-là ont du mal à quitter l'entreprise parce que comme une des grandes craintes du dépendant affectif c'est la solitude, le vide, etc. Bah s'il y a personne à la maison, bah surtout je reste là et je retiens les collègues, etc. On va donner d'autres points de repère. Il y a le dépendant affectif qui est aussi pris de temps en temps, et heureusement, dans des projets qui réussissent. Et qui, donc, du coup, génèrent aussi de temps en temps de la reconnaissance.
Ça peut marcher.
Mais c'est un puits sans fond, le dépendant affectif.
On va quand même essayer de trouver le fond dans un instant, Geneviève. Il nous reste 5 minutes, c'est notre mission.
Déjà.
Comment soigner la dépendance affective. Vos témoignages, hein, si vous avez l'impression de vous reconnaître, si en entreprise ça se passe mal, 03 87 52 13 13, parlez-nous de vous. Même si vous ne voulez pas passer à l'antenne, moi je lirai votre témoignage. On peut changer le nom, il n'y a absolument aucun problème. Vous nous appelez, c'est votre émission, vous intervenez quand vous voulez. Le conseil santé bien-être du jour avec Valérie Pierson dans 5 minutes. Comment bien éternuer et comment bien se moucher.
C'est d'actualité.
Ça paraît drôle comme ça, mais c'est très très important.
La vie en bleu, 9h-11h.
Bon, déjà, si vous êtes radin comme moi, vous n'utilisez pas le même mouchoir en papier pendant 3 jours. Hein. Parce que, bah oui, ça coûte cher. Hein. 20 paquets de mouchoirs. En plus, maintenant, vous avez vu, il n'y a pas 10 mouchoirs dans les paquets, il y en a 9.
Et après, vous vous étonnez de refiler vos miasmes à tout le monde. On revient, je profite des quelques dernières minutes pour donner des pistes aux auditeurs qui se seraient reconnus dans la dépendance affective.
Parce que les mouchoirs, elles s'en foutent. Alors, la dépendance affective au travail, on l'a identifiée, on va essayer de la soigner.
Dans le livre, en deuxième partie du livre, d'ailleurs, je construis toujours mes livres de cette façon-là. Première partie pour comprendre et arriver à situer cette fois-ci, comme c'est au travail, les situations professionnelles par rapport à ce trouble-là. Et en deuxième partie, des fiches qui sont des fiches d'accompagnement, soit d'auto-accompagnement si la personne travaille sur elle-même, ou pouvoir accompagner quelqu'un, un dépendant affectif, lorsque par exemple on est manager. La bonne porte d'entrée pour l'entreprise, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, puisqu'il s'agit de travailler sur la peur de l'abandon, la confiance en soi, regagner estime de soi, identifier sa valeur, mieux se connaître, etc. Ce sont des portes d'entrée qui vont avoir une influence positive sur ce trouble-là. Et le livre bleu donc qui est sorti, donc Dépendance affective, 6 étapes pour se prendre en main et agir, sorti au mois de juin, toujours chez Erol. Là, c'est vraiment un livre-outil. C'est-à-dire qu'il y a 6 étapes concrètes pour travailler sur soi. Et en plus, dans la deuxième partie, il y a des petites étapes qui viennent retravailler les 6 étapes en question. Et puis, si ça va vraiment pas et si le cas est sévère, là, évidemment qu'il faut consulter.
Alors, avant d'acheter le livre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut travailler sur quoi ? Si on s'est identifié dépendant affectif, on sait que ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Le maître mot, c'est observer. Observer pour comprendre, observer pour se reconnaître et surtout être sincère avec soi-même, être honnête avec soi-même, c'est-à-dire si je me sens là-dedans, si vraiment il y a plusieurs critères et si en plus je sens que ça me fait quelque chose et que ça me fait souffrir et que ça pose un problème autour de moi, c'est d'avoir vraiment l'honnêteté de dire bon, ok, c'est bon, je me reconnais et maintenant qu'est-ce que je fais ?
On a plusieurs témoignages qui nous arrivent. On a Eric qui a rencontré un chef il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, c'est ce qu'il me dit. 2-3 ans, oui. Ça s'est très mal passé et il n'arrive pas à passer à autre chose. Il n'arrive pas à oublier. On a Franck qui est en accident de travail depuis septembre. Il devait reprendre ce lundi. Il a reçu des menaces de son entreprise. Ça fait 41 ans qu'il est dans la même boîte. Et ces deux personnes-là sont traumatisées. Est-ce que le dépendant affectif est rancunier? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un accro, qu'il y a eu un incident de parcours, ça s'oublie pas. Et du coup, il va être traumatisé à vie.
Oui, parce que c'est une blessure profonde qui vient raviver, on va dire, d'autres blessures. Et c'est simplement à se poser la question, est-ce que l'erreur, elle est toujours face à moi? Est-ce que la faute, forcément, c'est toujours l'autre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que ce que je ressens a été amplifié par ma façon de fonctionner? Et autre questionnement possible, qu'est-ce qui, en moi, va faire en sorte que quelqu'un qui soit malveillant en face s'imagine qu'avec moi, ce soit possible, alors qu'avec d'autres, il le fait pas? Voilà, c'est se remettre en question. De toute manière, on peut pas agir pour changer les autres. Donc si on a envie que quelque chose change pour soi et en soi, c'est sur soi qu'il faut travailler.
C'est une question de personne. C'est-à-dire si ça s'est mal passé avec un patron, avec un directeur, les directeurs, les chefs, ça tourne. Les personnes s'en vont, il y en a d'autres qui viennent à la place. C'est facile d'oublier, ce ne sont pas les mêmes personnes.
Oui, mais on n'oublie pas l'histoire pour ces personnes-là. Il y a une trace, et comme l'histoire a été vécue, quelque part, il y a des décisions internes qui sont prises. C'est comme quelqu'un qui a souffert d'une situation et qui va dire, plutôt que de se dire, maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, etc., et comment je vais fonctionner pour que ce soit comme ça, la personne risque de fonctionner avec... Non, mais ça, je veux plus. Et donc, elle se met dans un blocage, elle se coupe du monde, elle se coupe de toute opportunité et possibilité. Mais donc, elle attire aussi, et elle continue à attirer du négatif et des blocages et des rancœurs, etc. Donc, elle provoque aussi les choses. Donc, il y a vraiment une remise en question personnelle. Il faut travailler sur soi. C'est beaucoup plus intéressant que de montrer les autres du doigt.
Ça n'est pas toujours la faute des autres.
C'est souvent pas la faute des autres, mais la faute de soi.
Ah ouais, donc c'est terrible quand même, parce que les personnes qui sont concernées, qui entendent ça, qui se disent « c'est terrible, en ce moment ça se passe mal au boulot », c'est de votre faute.
Mais au moins prenons la moitié, pour moitié, qu'est-ce que j'ai comme responsabilité là-dedans? Pour moitié, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça change?
C'est dur comme travail ça.
C'est pas évident.
Ça dépend des jours et de quel pied on s'est levé.
On peut reparler de mouchoirs, là, du coup. Il y a toujours des mouchoirs. Il y a toujours des mouchoirs à proximité lors des consultations. Et les gens ne les oublient pas d'une consultation à l'autre. Parce qu'à un moment donné, il y a le temps pour pleurer sur soi. Et ensuite, il y a le temps pour pleurer de la libération.
C'est fascinant de parler des relations d'entreprise.
Parce qu'une entreprise, relation humaine, c'est de la tout chimie, simplement.
Encore plus qu'un couple, encore plus qu'une famille. C'est incroyable ce qui se passe en entreprise quand même. Entre les personnalités, est-ce que ça se mélange? Est-ce que ça se mélange pas?
C'est l'humain.
On en parlera mercredi prochain, Geneviève.
Ah mais je veux bien qu'on continue, il y a tellement à dire.
Ah ouais, ça serait bien qu'on reparle boulot. En plus, on y sera en train de rentrer.
Et peut-être mercredi prochain avec des cas concrets.
Ouais. On a eu pas mal de témoignages aujourd'hui, ça sera spécial témoignage la semaine prochaine.
Très bien.
Merci infiniment Geneviève.
Merci à vous.
La dépendance affective au travail, quand notre bien-être dépend de l'approbation et du regard de l'autre, édition Erol, EYROZELES. On trouve ça dans la grande librairie de Metz, Isler-Even,
je suppose.
Sur internet aussi. Et tous les mercredis, Geneviève Krebs de la chaîne du bien-être est avec nous.
France Bleu Lorraine.